France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Entrer dans une salle de cinéma sans ne rien savoir du film, excepté son titre, et en ressortir 1h30 plus tard, émerveillé par ce voyage et cette invitation à la désobéissance. Et ce film merveilleux est sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Son réalisateur vit au Brésil et miracle, il est ici avec nous. Bonjour Gabriel Mascaro. Bonjour.
Là, mon alegría muy grande está aquí. Buenos días para todos.
Très content d'être ici. Bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur des Voyages de Teresa, l'histoire de cette septuagénaire qui refuse ce destin imposé, s'installer dans une colonie pour personnes âgées et qui part seule à l'aventure découvrir son pays, l'Amazonie. Le film a obtenu l'an dernier l'Ours d'argent à Berlin. Il alimente cette vague de grands films brésiliens avec tout récemment L'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Tous les deux, vous venez de la même région, Recife, le Hollywood du Nord-Est. Vous serez accompagné ce matin de votre traductrice, Pascale Fougère, pour vous exprimer en espagnol. Les Voyages de Teresa sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les films de cette semaine, venus comme le vôtre, de terres lointaines, de Chine, d'Irak ou de Finlande, entre autres. Maintenant, direction l'Amazonie, vamos.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Mas é que eu preciso de barco fora da vista. Eu pago bem, ó.
Melhor a senhora esconder essa cabeleira branca aí. Tá cheio de dedo duro por aqui.
Como eu posso ajudar?
Eu preciso sair daqui.
Tu pensa mesmo que tu velho rico vai pra colônia? Isso me custou uma fortuna, mas estou livre.
Teresa travaille encore à 77 ans à nettoyer cet abattoir d'alligator. Première vision folle de ce film jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle devra, comme toutes les personnes de son âge au Brésil, partir dans une colonie. C'est une dystopie, même si on n'en est pas si loin dans la réalité. Et surtout un film sur un corps, bien que vieillissant, dites-vous, qui a encore des rêves à réaliser. La vieillesse au cinéma, souvent réduit aux souvenirs ou à la mort prochaine. Chez vous, c'est tout le contraire, Gabriel Mascaro.
Si, est verdad. La verdad que...
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai voulu faire en fait un film qui ont une ode à la liberté en utilisant la dystopie pour comme un outil, comme une vieillesse utopique. Un film qui a de l'espérance en fait et qui est un pari sur la vie et le droit en fait de rêver et réfléchir au sens de la vie.
D'ailleurs, l'exemple dans votre vie, c'est cette grand-mère que vous aviez et qui a appris la peinture à 80 ans. C'était ça le point de départ, presque.
Si, et la vérité que je crescine dans une casa con mi abuela.
J'ai grandi dans une maison avec ma grand-mère et on parlait toujours de la question de la vieillesse et du soin. Et quand mon grand-père est décédé, immédiatement après, ma grand-mère s'est mise à la peinture. Et on n'avait aucune tradition familiale artistique. Hein, et tout d'un coup, la peinture a émergé dans sa vie. Donc c'était un espèce de pari sur quelque chose de nouveau. Ça m'a paru incroyable qu'une personne aussi âgée, ça a été une vraie inspiration pour moi. Et quand on a réfléchi au film en général et à un protagoniste, en fait, souvent on parle des personnes âgées en rapport à l'imminence l'absence de la mort, et puis aussi, comme vous le disiez, sur la nostalgie, sur ce qui s'est passé, sur ces temps glorieux qui ne reviendront pas. Et je voulais simplement faire un film sur une personne âgée, au présent.
Une personne âgée qui est très dynamique et qui rêve en fait de voler, quoi, qui a encore des rêves à cet âge-là.
Si, todavía tiene un sueño de volar.
Oui, elle a encore des rêves et ce rêve de voler. Et elle va dans son voyage que elle va voler bien plus haut en imagination, en fait. Hein. Un espèce de vol intérieur, quelque chose qui se passe en soi.
Je disais, ce film est une dystopie. Vous imaginez un gouvernement qui a prévu des colonies pour les personnes âgées. En fait, ça rappelle l'expulsion eh bien, des communautés autochtones de leurs terres dans votre pays, et plus généralement, ça rappelle aussi le sort réservé aux réfugiés et aux migrants. C'était ça aussi l'idée derrière cette dystopie.
Oui, c'est vrai. Beaucoup de pays aujourd'hui sont confrontés à la question du déplacement forcé de certaines populations pour des motifs différents, que ce soit des conflits internationaux, des occupations de territoire. Et de plus en plus, on perd l'empathie, en fait, dans nos sociétés pour ces personnes qui sont déplacées de manière forcée. Et c'est intéressant parce que quand le film sort sur cette femme âgée qui se déplace seulement parce qu'elle en a envie. Et d'une certaine manière, on se souvient en fait de cette empathie qu'on pouvait ressentir pour des personnes déplacées à partir d'un autre regard.
Mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'elle n'est pas forcément très sympathique,
oui.
Cette vieille dame. Elle est un peu indigne et puis elle est souvent rugueuse.
Oui, c'est vrai, parce que je voulais éviter cette projection d'une héroïne où on allait se trouver lié dès le début. Mm-hmm. C'est un personnage qui approuve le système, en fait. Hein. Voilà, elle est d'accord pour aller dans cette colonie jusqu'à ce que quelque part y ait une baisse de cet âge pour aller dans la colonie. Hein. C'est passé de 80 à 75. Hein. Et donc, elle avait un petit peu de temps devant elle pour profiter de la vie, et puis tout d'un coup, elle est obligée d'y aller. Et c'est là que ça commence. Hein. Et voilà, il y a ce désir, effectivement, de voler avant d'aller dans cette colonie, de se rendre au gouvernement.
Hein.
Et là, c'est comment elle commence à avoir des expériences différentes et à connaître la vie de manière différente.
Elle va trouver un super moyen pour éviter la colonie, on ne le révèle pas. Mais c'est comme une petite fille, en fait, cette vieille dame, parce qu'elle a des contrôles d'identité partout, mais elle va réussir à s'enfuir. En fait, elle s'enfuit comme une héroïne de 25 ans. C'est ça qui est fou, elle a cette énergie-là pour quitter ce désespoir de la colonie. On va écouter un petit peu de son de ce fleuve, l'Amazone, avec ses oiseaux. De même que vous détournez l'image des vieux au cinéma, vous changez aussi celle de l'Amazonie, Gabriel Mascaro. C'est-à-dire, pour remettre en question cette représentation un peu romantique de la région comme poumon de la planète. C'est aussi une zone très industrielle.
Si, c'est vrai, parce que queríamos.
Oui, c'est exact, parce que.
De que l'Amazonie est solo siable.
On ne parle que de l'Amazonie en matière de préservation et de déforestation. Et je voulais montrer beaucoup plus de complexité de cette région qui se vit. Il y a des situations industrielles, des points d'industrie. Et j'ai commencé le film avec donc cet abattoir, en fait.
Abattoir d'alligator.
D'alligator.
Oui.
Hein, justement, pour montrer une image très bizarre qu'on n'associe pas à l'Amazonie quand on pense à cette région du monde.
Or, sur les berges de ce fleuve, on peut croiser des colonies de pneus, des boîtes de nuit, des boîtes de jeux, des bordels, des canailles, et même un escargot à la lave bleue. Ça, c'est le côté poétique de la chose. Cet escargot qui est comme une métaphore de la vieillesse, qui avance lentement, mais qui a beaucoup de possibilités, en fait.
Sì, è vero. Il caracolito tiene.
Alors, ce petit escargot, oui, effectivement, ha le pouvoir de montrer le futur dans le film. Et il y a beaucoup de psychotropes qu'on trouve dans l'Amazonie qui viennent de la faune ou de la flore qui ont des propriétés similaires. Mais cet escargot n'existe pas, je le regrette. C'est une invention totale du film. Mais. Je préférais inventer en fait cet escargot pour respecter la culture indigène, parce qu'il y a beaucoup d'animaux et de plantes qui produisent ce type d'expérience, sont associés à des rituels religieux. Donc je voulais les respecter et créer mon propre élément équivalent, une espèce d'allégorie comme ça, de cette espèce de fantasme de l'Amazonie et de sa faune et flore.
Ce qui est merveilleux, c'est que cet homme qu'elle rencontre va se servir de cet escargot, mais pour se rendre compte qu'il a justement des comptes à régler avec sa propre vie. C'est pas forcément positif, ses visions. Il y a également un combat de poissons, mais incroyable, entre un poisson blanc et un poisson rouge, mais avec des formes folles. Ça existe, ça, vraiment? Je crois que ces poissons, ils viennent pas de là-bas, ils viennent du Cambodge ou du Vietnam pour nettoyer un peu l'Amazone, c'est ça?
Oui, oui, ces petits poissons, en fait, qui se battent qui donnent lieu à des paris. Ce sont des poissons qui viennent d'Asie et qui ont été très utilisés pour manger, en fait, les moustiques. Hein. On les a importés d'Asie pour manger ces moustiques qu'on a en Amazonie. Et donc, évidemment, les gens ont commencé à les collectionner et puis ensuite à les faire se battre.
C'est un film pour que nous réouvrions les yeux, Gabriel, sur ce qui nous entoure.
Oui, c'est tout à fait ça. Et ça commence par regarder les personnes âgées, nos anciens, que très souvent on n'écoute pas et qui ont quelque part plus une voix qu'on entend. C'est regarder les choses, mais surtout regarder les personnes âgées qui sont juste à côté de nous et puis prendre en compte bien ce qu'elles veulent, leurs envies.
Le président Lula a beaucoup aimé votre film. Il a même tweeté sur ses voyages de Teresa. C'est vrai?
Oui, absolument. Comme on a gagné l'ours d'argent à la Berlinale, Lula, quand il a vu le film, a fait un commentaire très généreux. Des films comme ça, des conquêtes, des victoires comme celle-ci sont l'orgueil du Brésil. Et il nous a invités aller en fait hein, chez lui à voir le film avec lui dans son salon. Et il a vu en fait le film avec toute l'équipe hein, en mangeant du pop-corn. Hein. Et à un moment donné, il a même failli s'étouffer avec le pop-corn. Et donc je me suis dit, oh là là, Lula ne mourrait pas en regardant mon film.
Et cette femme va rencontrer donc plusieurs personnes sur sa route, un homme, un deuxième homme, et puis une femme assez extraordinaire, une pentecôtiste, et va naître une très grande amitié entre elles deux. Ça serait un peu comme un Thelma et Louise du Troisième Âge, non ?
Si, est vrai, il y a une référence qui cite.
Oui, c'est vrai. Hein. Et je suis contente que vous parliez de Thelma et Louise parce que c'est vraiment un film qui m'a pas mal influencée en fait en termes de genre, c'est-à-dire un film coming of age, un film d'apprentissage, parce que c'est un film de rencontre en fait. Cette femme âgée voyage dans l'Amazonie, elle accomplit son rêve et elle va rencontrer des personnes très différentes. Et quand j'ai fait des recherches pour faire un film sur une personne âgée, il n'y avait pas de référence très claire en fait sur une personne âgée et ses volontés propres. Et j'ai fini par décider que le film allait mêler des références liées à différents genres du cinéma. Film de passage à l'âge adulte, c'est dystopie, des road movies. Et tous ces genres, en fait, sont associés effectivement aux jeunes et à la jeunesse.
C'est marrant, on pense aussi au film African Queen avec Humphrey Bogart. Ça vous est venu à l'idée aussi, cette vieille dame et cet homme que rien ne rassemble. Est-ce que ça a été une référence pour vous, African Queen ?
Et ce bateau qui marche mal.
Oui.
Si, la verdad es clara.
Oui. Et effectivement, il y a des références très très variées. Hein. Même si c'est des dystopies, les références viennent bien plus en fait de films de voyage, de films de découverte en fait, ou de films où les gens tombent amoureux, comme Before Sunrise. Des films sur comment on retombe amoureux, comment on reconnecte avec la vie. Et malheureusement, c'est un peu comme si les différents genres qu'on retrouve au cinéma ne permettaient pas qu'un corps âgé puisse représenter ces genres. Hein. Ouais. Les films qui parlent d'amour, c'est toujours pour les jeunes. La dystopie, c'est toujours pour les jeunes pour qu'ils se rebellent. Et pourquoi est-ce que les personnes âgées ne pourraient pas tomber amoureuses ou se rebeller
hein, on va écouter ces deux femmes chanter, justement.
Eu vou também.
Ça a été difficile de montrer ce film au Brésil. Je veux dire, est-ce que vous avez suffisamment de salles, Gabriel Mascaro, pour montrer vos films ?
Malheureusement, la grande majorité des cinémas des Brésiliens qui existaient dans les années 80-90 hein, se sont transformés en lieux d'églises pentecôtistes et évangélistes. Il y a plus de ciné à Paris que dans tout le Brésil. Hein.
Ah oui.
Donc, c'est un pays qui a pas mal de difficultés et d'attentes, en fait, hein, et notamment en dehors des grandes villes, en ce qui concerne l'accès à la culture. et au cinéma. Donc c'est un défi très important en fait d'amener la culture dans les villages et en dehors des villes au Brésil.
Donc j'imagine que l'ours d'argent que vous avez reçu est très important pour la suite de votre carrière, tout comme celle de Kleber Mendoza, sa présentation à Cannes, son prix et sa nomination aux Oscars.
Sí, la verdad es que pasó algo muy lindo reciente con el cine brasileño.
Il s'est passé quelque chose de très bien pour le cinéma brésilien avec donc le film de Walter Salles.
Le festival de Berlin
et avec ça s'est confirmé au festival de Berlin avec le voyage de Teresa qui a montré qu'en fait ce qui se passe actuellement dans le cinéma brésilien n'est pas seulement un accident. Et puis après le film de Kleber Mendoza, donc l'agent secret a été présenté à Cannes, ce qui veut dire que dans un laps de temps assez court, hein, et après Bolsonaro, la culture brésilienne ressort avec beaucoup de force, revient avec beaucoup d'intensité et est reconnue. Mais je pense que c'est une récolte en fait hein, de ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, lors du premier gouvernement Lula, il y a eu en fait une décentralisation de la politique qui a permis, en fait, dans différentes régions, ce qui a permis, en fait, à une ville comme Recife, hein, qui est un peu loin de centres comme São Paulo ou brésilien, de créer un centre de cinéma atypique, indépendant, et avec aussi une prise de risque qui n'est pas aussi alignée avec le cinéma commercial et industriel que l'on fait à São Paulo, par exemple. Hein. C'est quelque part un état très d'expression très fort. Hein. Il y a eu un Mangue Beat, qui était un genre musical qui a été très important au Brésil dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est le cinéma brésilien aussi dans une région comme le Pernambuco. Beaucoup est très important. Hein. Il y a une espèce d'expérimentation aujourd'hui voilà, qu'on retrouve dans le cinéma.
Justement, on a une petite surprise pour vous. On a appelé Walter Salles, qui est au Brésil, et on lui a demandé de parler un petit peu de cette histoire du cinéma et de votre film. Walter Salles, il est très important dans votre pays, effectivement. En 98, avec Central do Brasil, il a montré sa vision, effectivement, réaliste des problèmes de la société brésilienne. Et puis, un peu plus tard et plus récemment, avec Je suis toujours là, il a évoqué la dictature dans votre pays, qui est très rarement évoquée, qui sera ensuite relayée par Kleber Mendoza dans L'Agent Secret. Donc voici ce petit texte pour vous de Walter Salles, il est en français, on va vous le traduire.
Dans le passé, la plupart des films brésiliens venaient des États de Rio ou São Paulo. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement cinématographique dans des États du Nordeste comme Pernambuco, où Kleber Mendoza Filho a tourné L'Agent Secret. Ce cycle est marqué par un désir de raconter des histoires où la trajectoire des personnages reflète quelque chose de plus ample, qui est l'identité en mouvement de tout un pays. Et il faut se souvenir que ces films ont été tournés après 4 ans d'autoritarisme, de 2018 à 2022. Et donc ils sont habités par une quête de liberté et un fort désir de cinéma. Et je pense que tout cela est perceptible à l'écran. Un des maîtres du cinéma brésilien qui a inspiré Glauber Rocha et le mouvement du cinéma novo, qui s'appelait Humberto Mauro, disait que cinéma est cachoeira, le cinéma est comme une cascade. Le moment actuel du cinéma brésilien me rappelle cette définition, ce flux continu. Quelques mots sur les voyages de Teresa. Je trouve que ce film venant également de Pernambuco et tourné en grande partie en Amazonie et d'une rare force et sensorialité. Un récit onirique et habité qui dévoile des mondes inconnus, réalisé par un des plus talentueux et originaux cinéastes brésiliens contemporains. Les Voyages de Teresa est un film qui en même temps nous enchante et nous inquiète. Et j'ai l'impression que le futur du cinéma brésilien passe justement par des réalisateurs comme Gabriel Mascaro et Kleber Mendonça Filho.
Quel hommage, hein, Gabriel Mascaro, quel hommage d'un père.
merci beaucoup. Voilà, j'étais pas préparée pour ce genre d'émotion. Ça me touche beaucoup. Et je suis très heureux parce que Walter Salles a eu effectivement donc l'Ours d'Or quand j'étais petit, en fait, et c'est la première fois que j'entendais le mot Berlinale. Et donc quand on est entré en compétition pour la Berlinale, c'est là que je suis revenu, la mémoire de ce film, en fait, Histoire du Brésil, je ne me souviens plus du titre, mais revenu. Et donc, revenir dans un festival de cinéma, revenir, en fait, représenter le Brésil dans un festival aussi important que la Berlinale, comme Centro de Brasil, voilà, ce film de Walter Salles, hein, qui se passait beaucoup dans une gare, hein, et qui avait gagné l'Ours d'Or. Et je crois que vraiment, ça a été un moment comme ça qui a ouvert en fait les portes pour le cinéma brésilien. Donc on était très fiers, et moi j'étais très fière ensuite d'aller à la Berlinale. J'étais pas prêt pour cette douche d'émotion si tôt dans le matin.
Mais comment vous expliquez, parce que c'est vrai que c'est particulier au Brésil et même dans l'Amérique du Sud en général, cette solidarité entre les cinéastes qui n'existe pas ailleurs ou moins fort. Ça veut dire que vous êtes peu nombreux, mais vous êtes hyper généreux les uns avec les autres.
Alors, je pense que c'est tellement difficile de faire du cinéma dans ces régions-là que lorsque l'un d'entre nous a une consécration, hein, il y a une reconnaissance générale, et je crois qu'effectivement on est solidaire et on s'aide. Voilà, ce qui se passe au Brésil actuellement, c'est ce qui s'est passé en Argentine avec des gens comme Lucrecia Martel ou d'autres réalisateurs qui donc ont ouvert une certaine reconnaissance de ces cinémas-là à l'international, hein. Et donc effectivement, je pense que à chaque fois que l'un des films de notre pays est primé, c'est une célébration générale. On se voit comme des frères qui sont en train de conquérir un espace quelque part et un pays.
Donc. C'est drôle parce qu'en France on dit nouvelle vague, et vous, au Brésil, vous dites une cascade. C'est beau comme terme, hein, une cascade de talents. Mais vous aussi, Gabriel, avec vos films, celui-là est le quatrième, vous voulez aussi documenter la société brésilienne, comme vos autres compatriotes réalisateurs, c'est ça ?
Le documentaire, c'est un outil très particulier, hein, qui a été utilisé au Brésil et aussi en Amérique du Nord. Et on voit aussi, en fait, toute une vague, en fait, hein, qui travaille avec la fiction, qui permet de réfléchir à d'autres couches, en fait, de la réalité, un peu comme la littérature. C'est un regard aussi qui peut être rapproché de ce qu'a été le réalisme magique de la littérature de langue espagnole.
Mais celui-là, plus accessible. Chez vous, plus accessible, ce réalisme magique dans votre film.
Oui, j'avais envie de faire un film très sincère et qui veut vraiment accompagner cette femme qui est en train de redécouvrir la vie. Et c'est vrai qu'on a fait aussi en fait un choix de cadre de l'image en fait, hein, qui n'est pas ce cinémascope qu'on a souvent, hein, voilà. Et on a fait à l'opposé, en fait, une image qui est carrée, qui est plus représentative, en fait, d'un format du portrait, de manière à ce que l'on voit bien sur cette femme les marques de la vie et de l'âge, à la fois sur son corps et son visage.
Et les magnifiques lumières de l'Amazonie aussi, mais qui sont absolument splendides.
Splendide.
Ce film splendide et merveilleux s'appelle Les Voyages de Teresa, et il sort mercredi prochain.
Courage.
Ouais, on se retrouve après Gaëtan Roussel et Bernard Lavillier. Lové.
Par moments, sensible et chancelant.
Caché, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère, trempé, trempé, trempé.
Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, 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 nos deux corps dans la lumière. Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants. Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Inter. On aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va commencer par ce film Le Gâteau du Président, le premier film de Hassan Hadi. Je crois que j'ai jamais vu un homme aussi heureux de recevoir cette caméra d'or à Cannes, la première par parenthèse pour un film irakien. Dans l'Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier par son professeur et par tirage au sort la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Sa quête d'ingrédients accompagnée de son ami Saïd bouleverse son quotidien. C'est une histoire presque personnelle puisque le cinéaste petit garçon avait dû lui composer un bouquet pour Saddam Hussein. C'est une fable sur la dictature racontée du côté des enfants. comme le faisait un certain Abbas Kiarostami.
Bien sûr, mais c'est une histoire vraie, hein. Il faut insister, parce que ça nous paraît tellement surréaliste qu'on ait demandé à des enfants d'un pays à moitié mourant de faim de fabriquer un gâteau, que évidemment Saddam Hussein ne mangera jamais, parce qu'en plus, vu le gâteau que c'est un peu de farine, un peu d'œuf, enfin, vraiment, il n'y a pas de quoi grimper au plafond de la gastronomie, mais c'est incroyable, quoi. Et alors tout ça se passe en plus dans les marais mésopotamiens, c'est un littoral absolument hors du temps, dont on nous dit que c'est le berceau de la civilisation mésopotamienne, donc de Gilgamesh. Et ça, c'est une dimension presque onirique du film qui, je trouve, très importante. Moi, j'ai beaucoup pensé à un film américain que j'aime bien, qui est Le Petit Fugitif de Engel et Orkin, parce que c'est comme ça un personnage d'enfant qui fugue un peu, hein, qui quête quelque chose, et qui dévoile aussi une société, là en l'occurrence la société irakienne, apeurée, terrorisée, affamée, qui apparaît sans jamais tomber dans le pathos et dans la victimisation. Je trouve ça très très beau. Et puis il y a quand même une dimension qui est intéressante. L'image et le montage sont assurés par deux collaborateurs de Munju, le roumain, et la production, c'est Sundance, en partie.
Ouais.
Je trouve que cette internationalisation d'un film aussi singulier et particulier est merveilleuse. Ça donne un peu raison à Jean Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène.
The Mastermind de Kelly Reichardt. Alors, Massachusetts, 1970, père de famille en quête d'un nouveau souffle, Mooney, c'est Josh O'Connor, décide de se reconvertir dans le trafic d'œuvres d'art. Avec deux complices, il s'introduit dans un musée et dérobe des tableaux, mais la réalité le rattrape. Écouler les œuvres s'avère beaucoup plus compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour. Ennui, flottement, anti-héros flegmatique et décalage en permanence, le but de Kelly Reichardt, sans doute, se débarrasser du mythe du génie du hold-up. Ça, pour ça, c'est réussi, l'intention est bonne. Mais le minimalisme répétitif et sans aucune dramaturgie fatigue, même si ça a toujours fait partie de ses intentions. Pas de dramaturgie chez Kelly Reichardt.
Oui, parce qu'après notamment deux westerns et une fresque politique sur l'écologie politique, on sait que Reichardt adore se lancer dans un film de genre pour mieux s'en échapper.
Ouais.
C'est le cas avec ce pseudo-film de braquage, lequel est commis par une bande de braquassés emmenés par un Josh O'Connor, moi que je trouve parfait en homme sans qualité, d'une banlieue sans âme et d'une Amérique profonde des années 70. Et puis, du braquage, Reichardt passe finalement au road movie, après une scène que j'ai trouvée moi d'anthologie, qui est le cerveau tente de dissimuler son butin dans une grange à cochons.
Ah oui, 10 minutes pour cacher 4 tableaux.
Mais c'est le temps qu'il faut. Écoutez, vous vous rendez pas compte. Ça pèse beaucoup les tableaux dans une grange à cochons. Mais j'insiste, moi j'ai pris honnêtement beaucoup de plaisir, et notamment grâce à une bande-son jazzy absolument enthousiasmante. Et elle signe à nouveau ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire une vraie balade ironique, douce et amère sur son pays.
À vous de vous faire votre avis, effectivement.
Absolument.
La lumière ne meurt jamais. C'est un premier film d'une Finlandaise qui s'appelle Lauri Matti, par pays. Pauli, célèbre flûtiste classique, retourne dans sa petite ville natale au sud de la Finlande pour se remettre d'une dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste. Comment Paul, de nature plutôt perfectionniste, va-t-il se laisser embarquer dans cette aventure et surtout apprendre à faire des erreurs? Et au milieu d'une jeunesse qui se cherche, la réalité est aussi là, avec cette musicienne qui est aussi la réalisatrice et qui a composé les principales musiques du film, Laurent.
Oui, absolument. C'est un super, moi, je trouve, portrait musical, puisque le héros flûtiste fonde avec d'autres un, je cite, « collectif paramilitaire d'art sonore ». C'est vraiment, ça donne bien le ton est ainsi donné. La note est juste, absolument. Et le film cultive avec la musique la bonne distance entre écoute et ironie, adhésion et distance. C'est donc à l'image du film lui-même qui multiplie vraiment les scènes réussies, et pas seulement musicales, puisque par exemple, on y croise un chien bleu fluo, qui moi m'a fait inévitablement penser à un escargot bleu fluo. Comme quoi, les films se répondent, et ça, c'est toujours merveilleux. Comme disait Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange.
Oui, le bleu est une couleur magique. Le grand Phuket de Liu Xiaonan. Premier film au tout petit budget, seulement 14 jours de tournage, c'est l'histoire de Li Xing, 14 ans, qui vit dans le sud de la Chine, dans le district de Great Phuket, en pleine reconstruction. Il s'entend mal avec sa mère, qui refuse de quitter la maison familiale vouée à la destruction. Le collège où il étudie ne lui apporte que des ennuis. Un jour, il trouve un refuge souterrain où il peut échapper à sa vie d'adolescent. Au milieu de cette fiction, Laurent, une vérité documentaire sur The Great Phuket, justement, avec des acteurs pour la plupart non professionnels, et un film qui établit un parallèle entre un pays et un ado en reconstruction.
Absolument, il faut le signaler à nouveau, parce que c'est comme ça, dans l'air du temps, c'est une production germano-belgo-sino-française. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le cinéma maintenant, à plusieurs, et c'est très bien, par un réalisateur chinois en Chine, loin de la Thaïlande indiquée par le titre, mais on comprend pourquoi, c'est le nom d'un quartier et non pas du pays en question avec Phuket. Li Xing, il est comme un poisson dans l'eau dans ce quartier. Il est aussi agaçant qu'attachant, comme n'importe quel adolescent de 14 ans. Alors, même si certaines séquences d'animation peuvent un peu lasser, le charme du film, moi je trouve, opère petite touche par petite touche, et puis il y a, comme vous le disiez, au milieu un paysage urbain incroyable, et le réalisateur en fait quasiment un second personnage principal aux côtés de cet ado.
On les a reçus la semaine dernière, mais on en reparle, de À pied d'œuvre. Valérie Donzelli a adapté le livre de Franck Courtès, lequel est incarné par Bastien Bouillon, un photographe à succès. Abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre La pauvreté, un film subtil sur le prix exorbitant de la liberté artistique.
Oui, et on se réjouit qu'il rencontre son public et un véritable succès en salle. En ce moment, à la Cinémathèque, ce week-end, Cinémathèque française à Paris, se termine un cycle, une rétrospective. Valérie Donzelli, on pourra la voir présenter Marguerite et Julien, L'amour et les forêts, ou bien encore Main dans la main jusqu'à demain soir.
Une reprise datée de 72 qui s'appelle Rac de Charles Belmont, avec Samy Frey et Lila Kedrova. David, la trentaine, entretient d'excellents rapports avec sa mère, veuve d'origine lituanienne. Quand il apprend qu'elle souffre d'un cancer incurable, il la prend en charge avec un pieux mensonge et organise les soins à la maison. Face à une médecine inhumaine, il refuse la comédie du mensonge.
J'avoue que je ne connaissais pas ce film, je l'ai donc découvert. Il date, vous le disiez, de 1972. Eh ben, il est à découvrir ou à redécouvrir pour les plus chanceux. Samy Frey et Lily Kedrova sont formidables dans le film, et ils montrent une incroyable complicité, forcément fugace, parce que la mort va l'interrompre, entre ce fils et sa mère. C'est d'une ultra sensibilité.
Et il est magnifiquement restauré, en plus.
Et il est magnifiquement restauré avec le magnifique Samy Frey.
Alors, il y a une rétrospective Raymond Depardon, cinéaste, nous avait dit un jour, il faut avoir confiance aux gens. Donc, Depardon, la rétrospective, une œuvre impressionnante qui débute avec 1974, une partie de campagne, jusqu'au film 12 jours. C'est social, c'est ouvert, c'est généreux, et il a trouvé sa distance, notamment à partir de ce film fait divers dans un commissariat du 5e arrondissement. C'est vraiment le film matrice, il y a déjà tout de pardon à l'intérieur.
Ouais. Il faut avoir confiance aux gens. J'avais de la pellicule à l'époque, c'était pas du numérique, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je sais pas pourquoi, je voyais comme ça 2 personnes dans un couloir. Et puis, je sais pas, il se passait rien, il n'y avait pas de raison qu'il se passe quelque chose. C'est simplement la croyance du cinéma, voilà, peut-être que j'ai... Et puis, c'est d'un seul coup, ces 2 personnes commencent à parler. Et c'est vrai qu'en cinéma, la différence entre le cinéma et la photo, c'est qu'il faut avoir le début de la conversation. Il faut enregistrer le début, qui est un début comme ça, une question toute bête, quelqu'un, voilà. Et naît une séquence. Et c'est un temps faible que vous remontez un peu en temps fort, puisqu'après au montage, il va apparaître, avec toute la force du direct, il va apparaître comme une vraie scène dialoguée, avec 2 interlocuteurs. Et ça, c'est une merveille, parce que quand vous avez ça, même quelquefois ça peut être interrompu par un changement de magasin, parce que vous avez que 10 minutes, et maintenant effectivement les numériques ont plus d'autonomie, mais ça reste quand même quelque chose qui est magnifique et qui est vraiment du pur cinéma.
Extrait de Faits divers.
Autour des années 79, 1900, 79.
Oui.
Je suis allée à la coopération dans le 7e arrondissement pour prendre de l'argent, voilà, oui, que mon frère m'expédiait,
oui,
par cet intermédiaire-là. Et je touchais 1000 francs. En laissant quelques petites précisions d'ailleurs, parce que je trouvais beaucoup de discordance à l'époque, et ma foi, je voyais un Africain à côté de moi, et j'ai eu tout de suite la pensée, je suis sûre qu'il va me prendre quelque chose dans mon sac. J'ai pourtant fait très attention, et lorsque je suis arrivée chez moi, après être allée au cinéma Jean Cocteau,
oui, enfin, je vous arrête tout de suite là. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous attendez de la police?
J'attends précisément
l'objet de votre visite.
La déclaration de vol, oui, mais... la déclaration de vol de mon livret de caisse d'épargne, écureuil, un point c'est tout.
Absolument surréaliste.
Le cycle de Pardon, donc dans les salles suivantes, à Rennes, Paris, Nice, ouais, Tours, Le Mans, Marseille, Dunkerque, merveilleux. Mmh. Deux festivals, Laurent.
Oui, à Rennes, d'abord, la 37e édition du beau festival intitulé Travelling, c'est du 10 au 17 février. Et Travelling, ben, c'est un festival qui explore les versants cinématographiques des grandes villes du monde. Beau programme annuel, et cette fois, c'est Los Angeles à l'honneur. C'est dire si on pourra revoir des films de Lynch, Altman ou encore Sean Baker. Il y a aussi des ciné-concerts. Bref, c'est un très très beau programme et une thématique qu'on adore. Et puis, vous irez du 13 au 16 février dans la Nièvre, à Clamecy, ce qui fait d'ailleurs que la soirée inaugurale s'appelle la Nièvre du samedi soir. Pardon, notre traductrice, ça va être très dur pour traduire ça, mais moi j'adore. Donc ça interroge évidemment, vu c'est le festival des cinémas engagés, on interroge le monde contemporain, les luttes sociales, l'écologie, le féminisme, les droits humains, entre autres, et tout ça est au cinéma Le Casino.
Enfin, il nous reste une très grande minute, d'ailleurs, pour donner deux cadeaux à notre invité Gabriel Mascaro.
Christine, je vous donne le relais pour lui donner le film Sirate, qui vient de sortir chez Pyramide.
Ah d'ailleurs, juste un mot, parce que Sirate est parmi les films étrangers, et il y a le Kleber Mendoza aux Oscars,
oui,
et il paraît qu'au Carnaval de Rio, il a déjà une effigie à lui, Kleber Mendoza, c'est vrai Gabriel Mascaro?
Si, c'est vrai, la verdad, un carnaval de Olinda.
Oui, c'est le carnaval de Olinda, au Recife, en fait, qui est un carnaval très particulier. Et donc, on a des grosses figures, en fait, hein, qui représentent les célébrités. Et donc, Wagner Moura et Kleber Mendoza ont déjà, en fait, leurs Oscars à la main dans ces figures.
Incroyable, hein.
Et donc, voilà, le fait d'être nominé, c'est déjà un Oscar pour les gens du carnaval. Et
deuxième cadeau, parce que vous avez été documentariste.
On vous donne aussi, on vous donne aussi le coffret 3 Blu-ray jeunesse de Wang Bing, cinéaste chinois majeur. Trois films, Le Printemps, Les Tourments, Retour au pays, beaucoup de bonus et un livret de 80 pages, et c'est chez Carlotta.
Allons tous voir mercredi prochain Les Voyages de Teresa de Gabriel Mascaro. Merci Pascal Fougère pour votre traduction. Merci. Un grand merci aussi à Monica Donati pour nous avoir obtenu Walter Salles et ce petit cadeau, et à notre super équipe Valérie Ayestaï à la réalisation, Benjamin Ducy et Louis Tempero à la préparation, Olivier Rio à la programmation musicale et aux manettes ce matin, Tiffany Battistel. Au revoir.
Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.